Ainsi donc, frères et sœurs, ensemble, mercredi, avec l'imposition des cendres, nous sommes rentrés en carême. Et en ce premier dimanche de carême, nous pouvons nous interroger pourquoi le carême et en quoi consiste le carême. Je vous invite, lorsque vous serez rentrés chez vous, de prendre votre missel et de regarder la très belle prière qui faisait suite au rite pénitentiel, où il nous est dit que le carême nous ouvre à une meilleure connaissance du Christ. Ce qui veut dire que la prière, la privation, le partage que le carême nous propose d'intensifier n'ont pas d'autre intention, d'autre but que de permettre à chacune et chacun d'entre nous de renouveler sa connaissance du Christ. Très belle formule. Ne jamais se satisfaire de ce que l'on croit savoir de Jésus. Renouveler sa connaissance. Alors c'est dire à quel point le carême devrait être pour chacune et chacun d'entre nous une très belle, très joyeuse école de la foi. Les trois textes bibliques de ce dimanche nous permettent de pointer trois aspects fondamentaux de notre foi. Premièrement, l'extrait que nous avons entendu du livre de l'Exode souligne un point essentiel. Croire, c'est d'abord faire mémoire et le faire avec gratitude. Pour le croyant, il ne s'agit pas de retenir par cœur des formules, des notions théoriques. Ce qu'il doit retenir, ce sont des faits, des événements, des expériences, des personnes. Avoir l'aptitude de reconnaître la présence aimante de Dieu dans sa vie à travers des faits, des événements, des expériences, des personnes, voilà ce qui est fondamental, y compris dans les événements en apparence les plus anodins. Bibliquement, nous l'avons entendu, le geste de l'offrande est vécu comme un geste de reconnaissance. Apporter les offrandes, ce n'est pas concéder à Dieu quelque chose qui nous appartiendrait pour lui faire plaisir, c'est reconnaître que tout vient de lui. Ce n'est pas arriver les mains pleines de nos richesses, non, c'est reconnaître que sans lui, nos mains, notre cœur, notre esprit seraient vides. Et dans cette perspective, il convient d'apporter ces offrandes dans un geste de mémoire reconnaissante. Et donc, c'est tout le sens de l'offertoire. Dans quelques instants, au nom de chacune et de chacun d'entre vous, en présentant le pain et le vin, je présente nos vies au Seigneur. Et nous le faisons dans la gratitude, d'où le mot même « Eucharistie » en grec « Euvcharisto », « merci ». Merci Seigneur de ta présence aimante dans notre vie. Le deuxième passage, extrait de la lettre de saint Paul aux Romains, pourrait être résumé de la façon suivante, comme le fit le grand théologien Hans Urs von Balthasar. Il dit « Ce qu'a écrit saint Paul, c'est la confession de bouche et de cœur. » Bouche et cœur. Vous pourrez reprendre là aussi ce très beau passage de Paul et vous verrez que ces mots sont fondamentaux. Et cela nous permet de comprendre que la foi, ce n'est pas une question d'idées ou d'opinions. C'est l'expérience de quelqu'un, Jésus le Christ, qui change notre vie. Et en employant le mot « cœur », saint Paul le fait dans la grande tradition sémitique, c'est-à-dire qui vise l'engagement total de la personne. Et évidemment, cela a quelque chose à dire dans notre façon de conduire, avec la grâce de Dieu, notre carême. Souvenons-nous, frères et sœurs, de l'introduction du livre d'Isaïe. Le prophète pose cet oracle au nom du Seigneur. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est loin de moi. Je vomis ces holocaustes. Ce sont des paroles terribles. Mais elles nous invitent à relire l'authenticité de notre démarche en ce début de carême. Bien entendu, il est très heureux, frères et sœurs, d'avoir les uns les autres fixé des résolutions de carême. Il faut toujours le rappeler, ces résolutions doivent être au service d'une conversion. L'objectif final, c'est la conversion. Et une conversion qui nous permet d'unifier notre cœur. Comment à cet instant ne pas penser à ce mot si beau d'un de nos grands poètes ? Que ce que tu dises tienne dans ce que tu es. C'est-à-dire que lorsque nous disons, nous professons quelque chose de notre foi, nous puissions être crédibles, parce que ce que nous disons, nous le vivons. Si tel n'est pas le cas, alors mieux vaut le silence. Et nous en arrivons à l'Évangile, l'épreuve du désert, ou plus exactement, le désert est l'épreuve de la tentation. À ce sujet, c'est saint Léon le Grand qui parlera du baptême du désert, soulignant ainsi la dimension fondatrice de cette expérience dans la vie de Jésus le Christ, le baptême du désert. C'est un de nos grands scientifiques, Théodore Monod, qui écrivait « Même les rois au désert sont des esclaves, ils sont les esclaves du réel ». Frères et sœurs, à juste raison, nous avons chanté en début de célébration « Avec toi, Seigneur, nous irons au désert ». C'est pour nous tous l'occasion de nous déconnecter, pour reprendre une formule habituelle aujourd'hui, nous déconnecter du virtuel pour nous réapproprier notre réel. En effet, nous risquons toujours, c'est une tentation permanente, de vivre ou dans le virtuel, ou nous pourrions dire dans l'illusion. L'illusion sur nous-mêmes, l'illusion sur ce que nous vivons, l'illusion sur notre propre vie spirituelle. Le temps du désert, c'est le temps du réel, c'est le temps de la vérité sur notre vie. Alors oui, suivons Jésus au désert. Et comprenons bien l'enjeu de ce passage évangélique. En effet, les trois versets de la Bible que Jésus oppose aux tentateurs, ce ne sont pas simplement des formules récitées par cœur, ce sont des formules qui relèvent d'une profession de foi existentielle, pour reprendre la formule de Congar, une profession de foi existentielle. Ce qui veut dire que ce ne sont plus des mots simplement qui disent la foi, mais toute l'existence. Alors pour résumer très brièvement, mesurons les enjeux. Premièrement, l'ingratitude est toujours mortifère. Ingratitude vis-à-vis de ses proches, ingratitude surtout vis-à-vis de Dieu. Ça n'est pas pour rien que chaque jour, nous sommes invités avec Marie à chanter le Magnificat, avoir la capacité de s'émerveiller de ce que Dieu fait dans notre vie. Deuxièmement, le carême n'est pas un temps de quelques résolutions simplement, c'est le moment favorable pour se fixer une conversion. Bien entendu, frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes attachés à la personne de Jésus le Christ. Mais nous le savons, il y a en notre vie du péché et il nous faut le reconnaître et fixer des lieux de conversion. Et nos résolutions sont toujours au service de la conversion. Troisièmement, ces temps de prière, de pénitence et de partage intensifié nous fait comprendre que c'est toute l'humanité qui est invitée à se mettre à la suite de Jésus le Christ. Alors, frères et sœurs, en ce premier dimanche de carême, avec l'évangile du baptême du désert, pour reprendre la formule de saint Léon le Grand, l'Église veut nous faire comprendre que Jésus n'a pas simplement résisté pour lui-même à la tentation. Au désert, il a résisté à la tentation pour chacune, chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que, avec lui, grâce à lui, nous pouvons toujours, malgré notre faiblesse, nous relever, repartir et lutter contre le tentateur qui veut nous séparer et de Dieu et de nos frères. Et en cela, nous le comprenons, le carême est une belle et joyeuse école de la foi.